Bonjour à tous. On ne peut s'empêcher de commenter le temps qu'il fait dehors, de marcher dans le jardin et de voir qu'il commence enfin à se remplir et à montrer des signes juste avant que tout ne se fane la semaine prochaine parce qu'il va faire 95 degrés. Mais non, je plaisante. C'est à cela que sert l'irrigation. Nous voici donc dans l'après-midi, au service de la Pentecôte. Après des milliers de Pentecôtes qui se sont succédés au fil du temps, des milliers et des milliers et des milliers. Puis, il y a environ 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, une Pentecôte d'un genre très différent s'est produite. Nous y reviendrons plus en détail, mais il s'agit d'une Pentecôte très différente de toutes celles qui l'ont précédée. Est-ce que c'est un peu comme la Pentecôte que nous allons vivre aujourd'hui? Je vais vous demander de faire quelque chose pour que nous soyons prêts. J'ai besoin que vous soyez absolument silencieux. Attendez une seconde. D'accord. Écoutez-le. Entendez-vous le vent qui s'engouffre? Non. Non, vous ne l'entendez pas. Entendez-vous le feu? Sentez-vous le feu? Voyez-vous les détecteurs de fumée ou les extincteurs automatiques se déclencher parce qu'il y a un incendie? Non, c'est très différent. Très différent de 31 après JC. D'accord. Essayons autre chose. Vous avez compris ce que je viens de dire? Si vous parlez français, vous n'avez toujours pas compris ce que je viens de dire, mais vous n'avez pas. J'ai prononcé les mots en français et ils ne vous sont pas parvenus en anglais. Il n'y avait pas de langue. C'est très différent de 31 ans après Jésus-Christ. Très différent. Mais il y a quelque chose aujourd'hui qui est exactement la même chose qu'en l'an 31 de notre ère, la puissance, l'Esprit de Dieu qui a accompli tous ces miracles incroyables et derrière nous est infusé dans notre esprit aujourd'hui. C'est le même esprit. Mais si nous revenons en arrière, quelques milliers d'années, et que nous examinons l'exemple du Nouveau Testament et celui de l'an 31 de notre ère, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Remontons donc le temps et examinons cette période pour voir quelle application elle peut avoir pour vous et moi aujourd'hui. Allons donc au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Vous voudrez peut-être mettre un marqueur ici. Nous ferons quelques allers-retours. Acte, chapitre 2. Savez-vous ce qui me réjouit le plus? Que nous n'en arrivions pas aux pointes où ce sermon, soit diffusé sur le terrain et que tous les frères francophones l'entendent. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Nous commençons ici. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voici le verset 2, cela remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues fendues, semblables à du feu, leur apparurent, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est à ce moment-là que les choses se sont passées comme je l'ai dit en plaisantant dans l'introduction, lorsque toutes ces manifestations physiques étonnantes ont fait de cette Pentecôte de l'an 31 après Jésus-Christ un moment unique dans l'histoire. Ils étaient ensemble. Ils étaient au même endroit. Ils faisaient preuve d'unité et d'obéissance parce qu'on leur avait dit d'être ensemble. Revenez donc au psaume, au livre des psaumes 13. Excusez-moi, au psaume 13. Voici donc un attribut que possédait l'Église du premier siècle. Nous n'allons pas encore le relier à aujourd'hui. Nous allons simplement examiner à la surface certains de ces attributs. Puis nous les ramènerons à aujourd'hui et à certaines des choses que nous pouvons appliquer à l'ensemble de l'Église de Dieu, mais aussi à nos vies individuelles. Revenons-y. Psaume 133, verset 1. Le premier verset dit, Voyez comme il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité. Si cela ne s'était pas produit, à quoi aurait ressemblé cette première Pentecôte du Nouveau Testament? S'ils n'avaient pas anticipé collectivement ce qui allait se passer, c'est pourquoi Pierre était si excité et pensait, d'accord. Ça y est. Tout commence, parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui n'avait jamais été vu auparavant. Après, souvenez-vous, il y avait eu la Pentecôte pendant des milliers et des milliers d'années, mais leur unité n'a pas commencé ce jour-là. Revenons au Nouveau Testament. Je vous ai dit de garder votre main ici, si vous l'avez fait, au chapitre 1 des Actes des Apôtres. Actes, chapitre 1. Vous verrez qu'il s'agit d'un modèle. Cela n'a pas commencé à la Pentecôte, cela a commencé avant, tout comme aujourd'hui, pour être prêt à vivre l'accomplissement de ce jour, nous devons travailler bien avant cet accomplissement. Acte 1 et verset 14. Tous cela, et donc tous, chacun d'entre eux, continuèrent. C'est avant ce récit, tous continuaient d'un commun accord à prier et à supplier avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Ils avaient déjà pris l'habitude d'être ensemble, d'être unis, d'avoir une approche simple, ciblée et directe de ce qu'ils voulaient faire. Leur esprit était singulier. C'était cohérent avant même qu'ils aient l'Esprit de Dieu. Car souvenez-vous, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. C'est intéressant. Le mot utilisé ici est rempli. Qu'avait-il donc que nous n'avions pas au moment du baptême? C'est une image étonnante, très différente de ce que nous vivons aujourd'hui à la Pentecôte. C'est merveilleux, nous entendons de la viande spirituelle. Nous partageons un repas ensemble. Nous ne nous soucions jamais d'ici, le quartier général, vous pouvez vous promener dans le jardin, voir le beau temps et la fraternité, et tant de choses qui rendent ce jour spécial. Mais c'est très différent de ce que c'était à l'époque. D'accord. Nous allons aller au chapitre 3 de Jean. Rappelez-vous, il y a plusieurs choses. Ils étaient unifiés, puis ceci s'est produit également. Jean, chapitre 3. Nous commencerons au verset 6. Jean 3, verset 6. Le verset 6 dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Bien sûr, je saute au verset 8. Le vent souffle où il veut et vous en entendez le bruit, mais vous ne pouvez pas savoir d'où il vient. Si vous entendez le vent. Le vent est une chose étonnante parce qu'il doit se heurter à quelque chose pour que vous puissiez entendre d'où il vient. Il peut donc souffler de ce côté ou de l'autre, mais vous entendez le bruit qui rebondit sur un tel ou un tel. Si je faisais souffler un vent dans cette pièce, il pourrait souffler de ma gauche à ma droite, et s'il touche cette lumière, j'entendrai un son à cet endroit. C'est là que le son va tourbillonner. Mais il n'y a rien. Il ne me dit pas d'où vient le vent. Il faut se lécher le doigt, le mettre en l'air et se dire, « Oh, d'accord, il vient de ma gauche. » Qu'il s'agisse de ou de la suite de ce verset. Ainsi, quiconque est né de l'esprit. On ne peut pas voir l'esprit. Et dans les actes, c'était cette unité. Ils étaient ensemble d'un commun accord et Dieu leur a donné son esprit. Et mes frères, cela a tout changé. Nous savons, en regardant l'Ancien Testament, qu'il y a des exemples d'individus auxquels l'esprit de Dieu a été donné, mais pas de la manière dont cela s'est passé à l'époque et qui s'est poursuivi pendant des milliers d'années pour nous amener là où vous et moi sommes assis sur nos chaises aujourd'hui. Nous avons la capacité d'exploiter la puissance qui a permis de réaliser des choses étonnantes à l'époque. Nous ne devrions même pas les regarder en nous disant que quelque chose comme cela ne pourrait jamais arriver aujourd'hui. Nous ne verrions jamais le feu, le vent impétueux ou le fait de parler a. Tous ces aspects, nous les regardons et nous pensons que c'est incroyable. Vous savez ce qui est encore plus étonnant? Ce sont toutes des manifestations physiques d'une puissance spirituelle. Ce qui se passe dans nos vies et l'Esprit de Dieu qui touche l'esprit humain, nous permet de changer, de grandir et de nous développer. C'est tellement, tellement plus que le vent, le feu, ou le fait que vous puissiez comprendre mon terrible français, tellement plus. Encore une fois, ce n'est pas une nouveauté du premier siècle. Revenons à l'Exode 19. Nous l'avons entendu ce matin. Exode 19. Nous allons le relire. Nous n'avons pas besoin de nous y attarder, car nous l'avons déjà abordé dans le message de ce matin. Nous le lirons jusqu'aux boutiques. Nous commencerons donc au verset 14. Le verset 14 de l'Exode 19 dit « Moïse descendit de la montagne vers le peuple, et il sanctifia le peuple, qui lava ses vêtements. Il dit au peuple, « Tenez-vous prêts pour le troisième jour, ne revenez pas chez vos femmes. » Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Encore une fois, souvenez-vous qu'il s'agit d'une Pentecôte. Dieu fait donc des choses puissantes en ce jour, et il prépare ce jour à représenter des choses encore plus puissantes. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres et des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, et le son de la trompette retentit très fort, de sorte que tout le peuple qui était dans le camp trembla. Ils ont eu peur. Difficile de leur en vouloir. N'est-ce pas? Il y a une montagne qui tremble et qui tonne. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit souvent. Ils viennent de voir une colonne de feu et de nuages, et ils ont vu la mer Rouge se séparer. On pourrait penser qu'ils sont un peu plus habitués aux miracles, mais c'est encore au-delà de ce qu'ils pensaient. La montagne tremble. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu, et ils s'arrêtèrent à l'extrémité de la montagne. La montagne du Sinaï était toute en fumée, car le Seigneur était descendu sur elle dans le feu. Par le feu, Dieu a symbolisé son arrivée sur cette montagne par le feu. Tout comme dans le Nouveau Testament, il symbolise la réception de sa puissance. Lui, Christ et Dieu sont constitués par le Saint-Esprit. C'est eux. Nous verrons plus loin un verset qui dit « L'Esprit est Christ ». Ils ont utilisé le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla. Cela aurait été terrifiant. Imaginez que les rochers, ou qu'ils aient dû se tenir plus loin pour ne pas être blessés. Mais la présence de Dieu s'est manifestée à nouveau à l'époque, et il y a quelques milliers d'années, et il l'a symbolisée par le feu en ce jour. Frères et sœurs, le jour de la Pentecôte n'est pas un jour saint comme les autres, puisqu'il se situe entre l'automne et le printemps. Il se distingue par sa singularité, et il est censé symboliser ce que nous avons appris à son sujet. Nous avons souvent parlé de la question de savoir si Dieu allait faire quelque chose un jour donné ou s'il allait utiliser le jour saint pour symboliser le jour. De toute évidence, nous sommes assis ici. Nous savons que Dieu utilise ce jour pour le symboliser, mais les symboles qu'il utilise, la puissance qu'il utilise, les images qu'il crée sont phénoménales. Allons au chapitre 2 de Joël. Feu, fumée. Joël chapitre 2, et nous allons descendre plus bas dans le passage. Verset 27. Verset 27 de Joël 2, « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, en regardant en avant dans le temps ici, et nul autre. Et mon peuple n'aura jamais à rougir. Et il arrivera ensuite, toujours en regardant vers l'avenir, que je répandrai mon esprit sur toute chair. » Ce n'est pas ce qu'il a fait en l'an 31 de notre ère. Il a répandu son esprit sur tous ceux qui étaient unifiés, tous ceux qui étaient d'accord, mais il attend le moment où le monde sera unifié et d'accord. Et cela lui permettra de répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. On pourrait presque dire, comme dans le Nouveau Testament, en langue. Les gens parleront en langue. Mais à ce moment-là, en auront-ils besoin? C'est peut-être pour cela que ce n'est pas mentionné. Au verset 29, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les serviteurs et sur les servantes. Tout le monde va donc en bénéficier. Tous les hommes. Encore une fois, ce jour représente quelque chose de grand. Revenons donc à l'an 31 de notre ère. Revenons au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Reprenons le récit avant d'aller plus loin et d'examiner ce que cela signifie pour notre époque moderne. Actes, chapitre 2, verset 38. Le verset 38 se lit comme suit. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est un peu plus tard. Il commence à voir l'Église se développer et grandir, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par beaucoup d'autres paroles, il témoignait et exhortait, en disant, « Sauvez-vous de cette génération fâcheuse. » Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans une génération qui a l'air beaucoup plus malheureuse qu'il y a 2000 ans. Verset 41. Ceux qui reçurent sa parole avec joie furent baptisés. Et le même jour, il leur fut adjoint environ 3000 âmes. 3000. J'ai essayé de lire cela parfois quand je fais une étude biblique, en lisant simplement, vous vous arrêtez et vous essayez d'imaginer mentalement ce que représenterait 3000. Je trouve toujours que les stades, ou l'une de mes façons préférées de le faire, c'est d'imaginer un grand stade de football ou autre, qui peut accueillir 5, 10 ou 15 000 personnes. Vous imaginez cela et vous pensez que 3000 personnes ont été baptisées. Au fur et à mesure que le chapitre se poursuit, on se rend compte que certains d'entre eux ont été plongés dans l'eau, sont remontés à la surface et n'ont rien reçu, tandis que d'autres ont reçu l'Esprit de Dieu. Puis, au verset 42, ils persévéraient avec constance. Ils restaient attachés à la doctrine des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. L'Église de Dieu, si nous faisons quelque chose que nous faisons bien depuis très longtemps, c'est rompre le pain depuis des milliers d'années. Nous venons de le faire aujourd'hui. Merveilleux repas. Chaque événement que nous organisons. Nous pourrions organiser des événements à l'extérieur. Nous pourrions prendre notre petit déjeuner. Nous sommes généralement très doués pour nous nourrir les uns les autres, rompre le pain et prier. Au verset 43, la crainte s'empara de tous, et il se fit beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte s'est emparée de chaque âme à cause de ce qui venait de se passer. C'est le modèle des Actes des Apôtres, comme vous venez de le voir, qui se développe et grandit. La peur, l'excitation, l'unité, puis d'autres miracles en découlent. Ils se sont consacrés, ses premiers disciples, ses premiers membres de l'Église de Dieu si vous voulez le dire ainsi, ils se sont consacrés à l'enseignement des apôtres, à leur communion, à la fraction du pain qui les a rapprochés, à cette unité, à ce lien, et alors cela ouvrira la porte au miracle. Passons au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 10 et verset 22. J'entends que vos pages se tournent encore. Il s'agit donc du verset 22 du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Il se lit comme suit, « Approchons-nous d'un cœur sincère et avec une pleine assurance dans la foi, Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre foi, sans faiblir, car il est fidèle à ce qu'il a promis. Considérons-nous les uns les autres pour nous inciter, j'aime ce terme, à l'amour et aux bonnes œuvres. Parce que provoquer, à notre époque, c'est aller au magasin et dire non, 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 et vous provoquez quelqu'un à le faire. Les enfants le font tout le temps. Ils se provoquent les uns les autres, généralement pas dans le sens des bonnes œuvres et de l'amour. À l'ère moderne, nous avons une connotation très négative à ce sujet, mais il est amusant de le visualiser. Vous nous imaginez faisant le tour de la salle, nous regardant les uns les autres et disant « Je vous mets au défi de faire de bonnes œuvres. » Parce que c'est un peu ce que Dieu dit. Gardez-vous les uns les autres sur le droit chemin. Aidez-vous les uns les autres à vous rappeler quel est notre but. Ce que signifie s'aimer les uns les autres. Pour faire ce que nous faisons lorsque nous sommes en communion, que nous travaillons les uns avec les autres et que nous servons. Verset 25. Sans négliger l'assemblée, comme le font certains, exhortez-vous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Cela peut être dit avec des points d'exclamation à l'époque moderne. Mais il est dit, faites les choses qui vous rassemblent. Faites les choses qui vous attirent dans la communion, qui sont capables de montrer l'amour. Car rappelez-vous, tout ce qui a trait au service, à la camaraderie, à l'amour, ne se fait pas de manière isolée. Si vous essayez d'appliquer l'amour de manière isolée, vous êtes seul devant un miroir. Je t'aime. C'est peut-être agréable, mais ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Nous devons être entourés d'autres personnes pour pouvoir le faire. Et pour être entourés d'autres personnes, nous devons participer. Nous devons nous inscrire pour les déjeuners. Nous devons nous inscrire à des opportunités de bénévolat. Nous devons nous inscrire à des événements, à des activités sociales et à tout ce que nous pouvons faire pour être entourés d'autres membres du peuple de Dieu afin que et vous puissiez vous inciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. On ne peut pas le faire seul. Le christianisme n'est pas un mode de vie solitaire. Même si vous êtes célibataire ou marié, vous ne pouvez pas être seul. Le christianisme n'est pas un mode de vie isolé. Passons à Colossiens 2. Là encore, nous examinons ce qui s'est passé au premier siècle, et nous en tirerons des leçons plus importantes pour nous aujourd'hui. Colossiens, chapitre 2. Mais la clé, comme nous continuons à le construire, c'est qu'ils étaient dans la communauté de l'apôtre, dans la doctrine de l'apôtre. Ils ne sont pas partis seuls. Ils n'ont pas eu leurs propres idées, car c'est le contraire de l'unité, le contraire d'être d'accord. Le verset 6 de Colossiens 2 dit, « Comme vous avez reçu Christ, Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Marchez donc en Christ, enraciné et édifié en lui, affermi dans la foi, comme on vous l'a enseigné. » Nous pourrions citer tant d'autres versets qui parlent de cela. Mais comme on nous l'a enseigné, nous faisons les choses qu'on nous a enseignées, et nous appliquons les choses quand nous les avons apprises. Lorsque vous êtes entré dans le mode de vie de Dieu, comme moi, vous ne connaissiez peut-être pas telle ou telle doctrine. Je crois que j'ai déjà donné cet exemple. Je me souviens que je sortais lentement du végétarisme avant d'être appelé, et j'en étais arrivé au point où j'avais mangé de tout, sauf de la viande rouge. Je mangeais donc du poulet, j'introduisais tout. La vie était ennuyeuse, j'avais donc besoin de plus de choses savoureuses. Mais je n'avais pas encore mangé de viande rouge. Je me suis dit, d'accord, je ne vais pas le faire. Puis je me suis souvenu d'avoir appris ce mode de vie et d'avoir lu des articles sur la viande propre. Et le soir du sabbat suivant, j'ai mangé un steak de la taille du Texas. Ça a changé. Mais avant cela, je ne savais pas. Nous en arrivons tous là. Si c'est votre premier sabbat ou si vous êtes nouveau dans la foi, il y a des choses que vous ne savez pas. Et Dieu ne vous demande pas de rendre des comptes avant que vous ne les connaissiez. Et soudain, vous les connaissez, et maintenant vous devez les appliquer. Et au fur et à mesure que vous apprenez, que vous vous développez et que vous grandissez, il y aura de nouvelles choses. En général, cela commence par des choses physiques. Vous apprenez alors que vous ne pouvez plus faire cela. On ne peut pas fumer, ou encore, les aliments propres et impurs. Ou nous respectons le sabbat, et je vais là-bas le jour du sabbat. Avec le temps, cela commence à changer. Les choses physiques sont réglées, puis nous commençons à apprendre des choses plus spirituelles ou des éléments que nous devons appliquer à notre caractère que Dieu nous montre. Il en va de même pour les choses physiques. Si nous voyons des choses dans notre caractère que Dieu nous montre, nous devons les changer, tout comme nous devons arrêter de manger du porc. Mais nous apprenons cela comme on nous l'a enseigné. Poursuivons ce verset. Le verset 7 continue, en abondant en actions de grâce. Nous devons être enracinés dans de solides enseignements, comme c'était le cas au premier siècle, et nous devons les recevoir avec reconnaissance. C'est une chose étonnante parce que nous recevons la connaissance, et parfois on peut se sentir submergé par la connaissance, n'est-ce pas? Il y a tellement de connaissances. Mais Dieu nous dit, non, recevez-les avec reconnaissance, parce que ce que vous avez est si précieux. J'ai eu l'occasion de donner une conférence biblique publique sur la région des Grands Lacs. J'ai vraiment été frappé par le fait que certaines choses que je disais étaient pour moi et pour vous des éléments de base du christianisme, mais qu'elles étaient profondes pour les personnes qui les entendaient pour la première fois. Des enseignements qu'ils n'avaient jamais entendus dans l'église baptiste ou luthérienne. Le simple fait de parler de recevoir le royaume de Dieu ou de ne pas aller au paradis a changé les mentalités. Quand vous arrive-t-il de penser, eh bien, peut-être que nous irons au ciel? Cela ne vous vient jamais à l'esprit. Nous nous sommes peut-être trompés. Mais pour la plupart des gens, c'est leur défaut. C'est ce qu'ils pensent, et c'est ce qu'ils ont pensé toute leur vie. Alors quand ils entendent cela, c'est un véritable choc. Et il est si facile de prouver qu'un seul verset peut changer complètement leur façon de penser. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. L'Église du premier siècle a donc suivi l'enseignement des apôtres, la doctrine de la fraternité. Elle était unie. Ils étaient d'accord. Elle a reçu l'Esprit de Dieu. Et cela a ouvert la porte à des choses qui n'avaient jamais été vues au niveau où elles se trouvaient jusqu'à ce moment-là. Allez à Matthieu 16. Matthieu, chapitre 16. Oh, excusez-moi. Marc 16. Marc 16. Probablement pas trop loin. Retournez quelque chose. Marc 16. Commencez au verset 19. Le verset 19 dit, « Après leur avoir parlé, le Seigneur fut reçu au ciel et s'assit à la droite de Dieu. » Verset 20, « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes, ce sont des miracles qui les ont suivis. » Ils sont donc allés prêcher la parole de Dieu, ils sont allés dans tous ces endroits, partout. Et à cause de l'unité, de l'accord unique, de l'Esprit de Dieu travaillant à travers eux, ils ont eu des signes, des miracles, des guérisons, des expulsions de démons, des choses qui n'avaient pas été vues jusqu'à ce que Christ vienne et fasse les miracles lui-même. Et même Christ a dit, souvenez-vous, il a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Rappelez-vous, les gens guéris dans l'ombre de Pierre. Tant de miracles, de prodiges. Et cela a continué à développer l'Église, n'est-ce pas? À partir de la Pentecôte, les gens sont venus, ils ont obéi, des milliers de personnes ont été baptisées, puis il y a eu des miracles, ils ont vu les miracles et ils ont eu peur. Et parfois, les miracles et la peur ne venaient pas de l'endroit le plus confortable. Revenons au chapitre 5 des Actes des Apôtres. La bonté ou la gentillesse et la sévérité de Dieu. Actes chapitre 5. Vous voyez, certaines de ces choses dont nous avons été témoins aujourd'hui, nous avons des guérisons, vous avez des réponses à des prières, surtout personnellement. Il est parfois difficile d'expliquer à quelqu'un d'autre, surtout s'il ne suit pas ce mode de vie, que lorsque des prières sont exaucées dans votre vie, quelqu'un dirait, « Oh, ce n'est qu'une coïncidence. Tout s'est arrangé tout seul. » Mais en tant que chrétien, surtout si vous l'avez fait pendant un certain temps, vous vous dites, « Ma vie est pleine de coïncidences, parce que les choses continuent à s'arranger d'elles-mêmes. » Mais vous obtenez des choses plus spectaculaires comme des guérisons. Ou le contraire, si vous voulez susciter la peur, comme nous le faisons ici. Il y a un certain homme, verset 1, au chapitre 5 des Actes, mais un certain homme nommé Anania et sa femme, Sapphira, ils ont vendu un bien. Vous connaissez ce récit, alors nous allons passer au verset 10. Au verset 10, on lit, « Elle tomba aussitôt à ses pieds. » Anania était donc déjà mort. Ils ont menti. Et lorsqu'ils ont menti, cela a eu des répercussions. C'est étonnant parce qu'ils avaient la possibilité de donner, dans ce cas, des biens en commun comme ils l'entendaient. Ils sont donc allés de l'avant et ont dit, « J'ai ce terrain qui vaut 10 000 $. Nous allons tout vous donner. » Ils l'ont vendu 15 $ et leur en ont donné 10. Ils ont menti. C'est incroyable ce que Dieu nous donne. C'est pourquoi Dieu considère la vérité comme si importante. Ils ont donné. Ils auraient pu donner une somme probablement importante, car ils n'auraient pas pu simplement dire, si disons que la terre, encore une fois, vaut 10 000, et qu'ils sont allés et ont dit, d'accord, nous donnons nos biens en commun. Voici 5 shekels. Tout le monde l'a regardé en disant, vous ne dites pas la vérité. Non, ils ont suffisamment bien joué ce match pour que l'on puisse penser qu'ils l'ont fait. Mais ils ont menti. Il est donc mort. Puis, au verset 10, on lit, elle tomba tout de suite, rendit l'âme et mourut, l'esprit. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent près de son mari. Une grande crainte s'empara de l'Église. Et sur tous ceux qui ont entendu ces choses. Pas seulement dans l'Église, mais vous pouvez imaginer combien de fois par jour quelqu'un fait un petit mensonge blanc. Peut-être que celui-ci était un peu plus gros qu'un petit mensonge blanc, mais ils ont menti et sont morts. Nous servons un Dieu très attaché à la vérité. Cela devrait nous faire réfléchir au fait que cela peut arriver à un couple qui a tout de même donné une somme d'argent substantielle à l'œuvre, mais Dieu ne s'est pas soucié de cela. Tout comme Dieu ne se préoccupe pas du bien en commun dans le sens du montant monétaire aujourd'hui, Dieu se préoccupe du bien en commun parce qu'il veut que nous soyons capables de nous débarrasser des choses qui nous retiendraient, des choses qui nous donneraient ce parachute, afin que nous nous lancions à fond dans ce mode de vie. Le nombre n'a pas d'importance, comme c'est le cas ici, c'est l'engagement, la vérité qui compte. Au verset 12, on lit encore, « Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se produisirent parmi le peuple, et ils étaient tous d'accord dans le portique de Salomon. » La peur peut donc provenir de plusieurs sources. Il peut s'agir de respect. Cela peut venir d'une véritable peur, ou cela peut être le fait de voir la puissance de Dieu et d'être dans l'admiration de cette puissance. Plus je pense que nous, vous et moi, Nous efforçons de nous assurer que lorsque nous exerçons la peur dans nos vies, c'est parce que nous admirons Dieu, ce qu'il peut faire, et non parce qu'il dit, je vais devoir leur infliger une véritable peur. Il va falloir qu'il y ait une véritable caution dans leur vie, et pas seulement tout mon pouvoir. Allons au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 12. Encore une fois, nous sommes encore en train de construire ici, en regardant le premier siècle, et puis au fur et à mesure qu'il se répand, il y a certainement des leçons pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas encore notre objectif. Nous sommes encore en train de construire. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels, car vous savez que les païens ont été entraînés vers des idoles muettes, comme vous l'avez été. Vous savez que ce sont des païens qui ont été entraînés vers des idoles muettes, comme vous avez été entraînés, nous avons tous commis des erreurs avant que Dieu ne nous appelle. C'est pourquoi je vous donne à entendre que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, n'appelle Jésus malédiction, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. La connaissance spirituelle nécessite le Saint-Esprit. Cette journée est consacrée à l'Esprit-Saint. Cette journée est consacrée à l'Esprit-Saint. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a diversité d'administration, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous, c'est l'Esprit de Dieu par le Seigneur, par Jésus, par Dieu le Père, mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour qu'il en profite à tous. Nous avons donc vu dans le Nouveau Testament que certaines des manifestations de l'Esprit étaient le parler en langue, le vent puissant, puis, au fil du temps, ses signes et ses prodiges, les guérisons, le fait de chasser les démons, ce sont des manifestations de l'Esprit. Parce que l'Esprit est Esprit, il n'est pas physique. Donc, pour que nous puissions interagir d'une manière ou d'une autre avec l'Esprit de Dieu qui interfère avec l'Esprit dans l'homme, la seule manière d'interagir avec quoi que ce soit dans le monde de l'Esprit est que cet Esprit, les anges ou les démons, ou l'Esprit de Dieu, Christ ou le Père à travers lui, se manifeste d'une manière physique. Poursuivons avec le septième verset, il est donné à chacun de profiter de tous. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la connaissance du même Esprit, la parole de connaissance, à un autre la foi par le même Esprit, tout cela par l'Esprit de Dieu. À un autre, la foi par le même Esprit, tout cela par l'Esprit de Dieu, à un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits, c'est un S minuscule, le discernement des mauvais esprits en particulier, à un autre, des langues diverses ou variées, et à un autre, l'interprétation des langues. L'Esprit de Dieu peut manifester en nous des dons très différents. Et c'est ce qu'il faisait dans l'Église primitive du Nouveau Testament. Il voyait des choses étonnantes. Des gens prophétisaient, mais souvenez-vous qu'ils avaient été remplis de l'Esprit de Dieu à la Pentecôte. Combien d'entre eux ont vécu cette expérience et ont été capables de sortir et de faire des choses qui nous semblent incroyablement surnaturelles? Mais j'oserais dire que chacun d'entre vous dans l'auditoire, moi debout ici, vivons quelque chose de bien plus étonnant dans nos vies. Avoir, pardonnez-moi le terme, un tour de manifestation, du vent, du feu, ces choses physiques, c'est incroyable. C'est le pouvoir de Dieu. Je ne veux pas le diminuer, mais ce n'est rien comparé au fait que vous et moi changeons notre identité pour ressembler à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le point culminant de l'œuvre de notre vie, ou vous pourriez dire l'œuvre éternelle de Dieu le Père dans Christ, pour faire avancer l'humanité et élargir la famille de Dieu, mais il le fait par son esprit. C'est lui qui donne la force. Actes des Apôtres, chapitre 4. Encore une fois, nous n'en sommes qu'au Nouveau Testament. Nous verrons dans un instant quand ce site se modernisera. Encore un passage avant de passer à la vitesse supérieure. Actes, chapitre 4, verset 28. 4, 28. La 28e est ainsi libellée, pour faire tout ce que ta main et ton conseil ont résolu d'avance de faire. Pensez-y, puis appliquez-le et faites-le. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et accorde à tes serviteurs qu'ils parlent en toute assurance en étendant ta main pour guérir, et que des signes et des prodiges se fassent au nom du Saint-Enfant Jésus. C'est donc par la puissance de Dieu que nous pouvons faire des signes et des prodiges. C'est ainsi que l'Église du Nouveau Testament a commencé. C'est ainsi que tout a commencé, en ce jour. Il est parfois facile d'ignorer la Pentecôte, n'est-ce pas? Il y a tellement d'importance à accorder à la Pâque. Lors de la préparation, nous pensons au sacrifice du Christ. C'est une période importante de l'année à laquelle nous avons tendance à penser à l'avance, bien plus qu'à n'importe quelle autre période de l'année, parce que nous nous préparons nous-mêmes, nous nous préparons à prendre la Pâque. Nous ne le prenons pas de manière indigne. C'était un point important au printemps. Et puis vous faites cela parce que tout le monde le fait. Je fais la même chose. On se dit que les jours saints du printemps sont terminés. Dans notre esprit, les prochains jours saints sont la fête des tabernacles. Nous avons oublié l'expiation. Nous avons oublié la Pentecôte, mais nous pensons à la fête des tabernacles parce qu'il y a beaucoup de travail de préparation, de réservation de chambres d'hôtel, d'inscription. Il y a tellement de choses qui vont de pair avec la fête que notre esprit a tendance à s'y intéresser. Et la fête est liée à l'expiation, n'est-ce pas? Tout cela semble en faire partie. Tout comme au printemps, les jours des pains sans levain font partie de la Pâque et des jours de la Pâque, bien sûr. Mais cela nous amène surtout à ne pas beaucoup réfléchir au jour où Christ ou Dieu a établi Israël et son Église du Nouveau Testament, et au jour qui représente le moment où le royaume de Dieu arrive. D'une certaine manière, on pourrait dire que la Pentecôte est le sommet de la colline, et non le bas de la vallée de l'image des jours saints. C'est ce à quoi Dieu travaille depuis l'éternité. Ce qu'aujourd'hui représente, c'est la possibilité d'aller en premier, de commencer son royaume. Allons au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Avançons dans le temps. Ce que nous devons être, ce que nous essayons d'accomplir, ce que nous voulons imaginer et faire avancer depuis l'an 31 de notre ère. Éphésiens, chapitre 4, verset 1. Le premier verset dit: le prisonnier du Seigneur vous demande de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Le travail, ce que nous avons, ce mode de vie est bien plus qu'un travail, mais c'est bien plus que ce que la plupart des gens voient dans le christianisme, n'est-ce pas? Pour la plupart des gens, le christianisme, c'est le dimanche, boum, c'est fini. Ils y vont le dimanche, font leurs petites choses pendant une heure ou deux, et retournent vivre leur vie et faire ce qu'ils veulent. Pour eux, le christianisme est moins qu'une vocation. Ils passent plus de temps à leur travail qu'à ce qui est censé être leur mode de vie. Aujourd'hui, nous voyons les choses très différemment. C'est une vocation à laquelle nous sommes appelés dans notre mode de vie. Verset 2, en toute solitude, douceur, longanimité et indulgence les uns envers les autres dans l'amour, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit. S'efforcer de la garder parce que ce n'est pas facile à faire. Il n'est pas facile de garder tout le monde exactement pareil. Vous ne trouverez personne qui marche comme nous marchons, qui pensent comme nous pensons. Regardez les échardes. J'ai une fenêtre sur les groupes dissidents et je peux voir. On peut croire à peu près tout ce que l'on veut, à condition de ne pas trop s'exprimer sur ce que l'on croit, afin de ne pas causer de problèmes. Mais vous pouvez avoir votre petite doctrine ici ou votre petite pensée ici, ou votre petite étude biblique ici, ou votre petit journal là. Tant que vous n'en parlez pas trop fort, ce n'est pas le cas dans l'Église de Dieu. L'unité de l'esprit. Nous devons la conserver. Nous devons y travailler. Nous devons la maintenir dans le lien de la paix, car si deux personnes ne sont pas d'accord, elles ne peuvent pas marcher ensemble et, par conséquent, il n'y a pas de paix. Verset 4. Il n'y a qu'un seul corps, qu'un seul esprit, comme vous êtes appelés dans une seule espérance de votre vocation. L'unité du corps montre à elle seule pourquoi Dieu travaille par l'intermédiaire d'une seule Église. On ne peut pas avoir plusieurs organisations qui enseignent des choses même légèrement différentes. Du point de vue du monde, ils pourraient nous regarder dans les scissions et dire « Oh, ils enseignent à peu près la même chose, alors pourquoi ne peuvent-ils pas être tous ensemble ?» Il se pourrait même que des gens dans les scissions pensent la même chose. Nous enseignons tous la même chose, pourquoi ne pouvons-nous pas être tous ensemble? Parce qu'ils n'enseignent pas tous la même chose. Dieu ne dit pas, vous avez une marge d'erreur de 5 ou 10%. Ainsi, lorsque j'établis ma vérité, la taille de mon échantillon n'était que d'environ 500 personnes. J'ai dû calculer ma marge d'erreur pour la vérité entre 5 et 10%. Si l'on s'en tient à l'essentiel, tout le reste est bon à prendre. Non, ce n'est pas ainsi que Dieu considère la vérité. Ils doivent l'être, et nous devons nous efforcer et travailler à maintenir l'unité. Jean, chapitre 17. Lorsque nous sommes unis, nous partageons un objectif. Et lorsque nous partageons le même objectif, nous avons tendance à ne pas perdre de vue ce qui nous unit. Jean encore, chapitre 17, verset 21, 17, 21, afin que tous, chacun, pose, soit un. Il ne s'agit donc pas seulement de quelques-uns, ni surtout de tous, mais d'un seul. Dieu ne s'embarrasse pas de mots lorsqu'il s'agit d'unité, il ne donne pas de marge d'erreur et ne truque pas les mots. Il n'y a qu'un seul mot. Comme vous, mon Père, êtes en moi et moi en vous, tout comme Dieu le Père en Christ, ils sont faits de la même chose. Comment peut-on être encore plus un pour être fait de la même substance? Ils sont tous deux faits du Saint-Esprit. Comment pouvez-vous être encore plus unis? Pouvez-vous imaginer? Il est parfois amusant de s'arrêter et de spéculer sur ce que signifie le fait d'être fait d'un même matériau interconnecté. Ce serait un peu comme si vous et moi, si nous étions tous faits d'air, comment cela fonctionne-t-il? Comment une personne commence-t-elle et comment une autre s'arrête-t-elle? Ou les pensées commencent-elles et où s'arrêtent-elles? Dieu partage-t-il toutes ses pensées avec Christ? Ils sont unifiés. Ils ne font qu'un. Imaginez que vous viviez ainsi, en tant qu'êtres humains, et que vous pensiez, « Oh, c'est terrifiant. Il y a des choses que je voudrais que d'autres personnes sachent qui se passent dans mon esprit, mais en tant que Dieu, nous devons être un. » C'est pourquoi nous continuons à lui ressembler de plus en plus afin de pouvoir contrôler nos pensées, nos actions et devenir plus un. Il poursuit en disant, « Nous sommes un en nous et dans le monde pour qu'il croie que tu m'as envoyé, » au verset 22, « Et la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » C'est l'une des dernières prières du Christ. Il aurait pu se concentrer sur toutes sortes de choses alors qu'il savait qu'il aurait des milliers d'années devant lui pour observer et attendre que son Église grandisse et diminue dans les années à venir et les années à venir. La chose sur laquelle il s'est concentré, Si vous prenez tout le chapitre 17 et que vous le lisez en entier, ne change pas vraiment le message, le sens, le contexte ou le point principal. Il s'est concentré sur l'unité. Il s'est concentré sur le fait que tout le monde soit un. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas un avec un frère ou une sœur, réglez le problème. Cette réparation peut se faire de différentes manières. Matthieu 18 me vient à l'esprit. C'est un grand texte. Mais réparez-la parce que pour faire partie de l'Église de Dieu, pour faire partie de ceux qui sont là pour accomplir le jour de la Pentecôte, nous devons être unis les uns avec les autres, pas seulement avec Dieu, parce que si nous sommes unis avec Dieu, cela signifie que ceux qui essaient d'être unis avec Dieu, nous sommes unis avec eux aussi. Si vous avez une rancune, un problème, quelque chose ou une offense, réparez-la. Corrigez-le. Réglez-le. Vous serez avec les gens qui vous entourent pour l'éternité. Nous pouvons gouverner des nations. Si nous nous disputons pour une raison insignifiante, alors que cette journée nous place au-dessus de l'univers, il faut régler le problème. Gardez la vue d'ensemble à l'esprit, car pour faire partie de tout cela, nous devons être un, nous devons être unifiés. Nous devons travailler ensemble, avoir le même but. Passons aux Philippiens. Mais il ne s'agit pas seulement d'enseignement, de compréhension ou de vérité. Nous devons faire des choses. Ce n'est pas académique. Le christianisme est académiquement fascinant, mais vous pouvez aller au séminaire pour être académiquement fascinant. Non, non, le vrai christianisme est très différent. Philippiens, chapitre 2, vous rattrape là. Une fois de plus, ce jour illustre, encore et encore, ce lien avec l'Esprit de Dieu, le jour où il a été donné et sa manifestation lors de la première Pentecôte, quand ils ont quitté l'Égypte, et celle qui a eu lieu il y a quelques milliers d'années. Le verset 12 de Philippiens 2 dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Quand le chat n'est pas là, les souris jouent, dit le proverbe, mais cela ne devrait pas être le cas pour nous. Nous ne devrions pas avoir besoin d'un ministre pour dire, non, ce n'est pas ce que Dieu voudrait que je fasse. Verset 13. Car c'est Dieu qui agit en vous pour vouloir et faire ce qui lui plaît. C'est un verset étonnant. Vous arrive-t-il de vous sentir un peu découragé? Vous n'avez pas le courage de faire certaines choses, de prendre la bonne décision. Vous savez que je devrais faire de la fraternité ou servir, ou étudier davantage la Bible ou quoi que ce soit d'autre. Dieu dit, non seulement je peux vous dire quoi faire et vous donner l'énergie nécessaire pour faire ce que vous devriez faire, mais je peux aussi vous donner la volonté de vouloir le faire. Si jamais nous nous sentons un peu découragés ou un peu « je suis fatigué », parce que nous pouvons tous le sentir. Cela arrive. C'est la vie. Nous sommes des êtres humains. Nous nous fatiguons. Nous pouvons demander à Dieu de nous donner la volonté de faire plus. Mettez-la en nous et vous pouvez ensuite poursuivre en disant « bon, maintenant j'ai la volonté. Tu as raison, mon Dieu, je viens d'y réfléchir dans ma prière. Je dois servir davantage. J'ai besoin de sortir et d'aider. Donne-moi l'énergie parce que je suis fatigué. » Il peut vous donner à la fois la volonté et l'action, ces deux étapes. Premièrement, vouloir, deuxièmement, faire. Allons au chapitre 3 de l'Épître aux Colossiens. Nous construirons ces cinq étapes. Nous avons tous parfois ce sentiment de ne pas vouloir. Je ne veux pas. C'est une expression qui n'a pas droit de citer chez nous, mais je ne veux pas. Eh bien, je m'en fiche. Tu vas donc en faire plus maintenant. Et quand tu voudras, tu pourras en faire moins. Nous leur apprenons simplement à vouloir, puis à faire. Colossiens, chapitre 3 et verset 16. Le verset 16 dit, que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant au Seigneur avec grâce dans vos cœurs. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous le faisons à chaque culte. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, nous commençons à développer ce que cela signifie, quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu et au Père par lui. Nous devons donc vouloir, nous devons faire, numéro 2. Numéro 3, vous pouvez les numéroter si vous voulez, c'est comme cela que j'ai tendance à m'en souvenir. Troisièmement, il y a les paroles et les actes. On pourrait dire les paroles et les actions. Dieu me donne la volonté de faire quelque chose, et une fois que j'ai fait quelque chose, cela se traduit par des paroles et des actes. Et quand je le fais, je dois atteindre le quatrième point, rendre grâce à Dieu et au Père par son intermédiaire. Ainsi, la volonté donne l'énergie de faire. Quand je fais, ce sont des mots et des actions, alors Dieu s'assure qu'ils sont corrects, puis remercie Dieu pour cela. Ensuite, cela mène à quelque chose qui résulte de cela, parce que c'est un processus répétable, la volonté, l'action, les mots et les actions, remercier Dieu. Vouloir, faire, parole et action, remercier Dieu. Vous répétez cela encore et encore. Nous le faisons des centaines de fois par jour. Parfois, la volonté est là, et ce n'est donc pas si difficile à faire. Ou bien, le matin, vous vous sentez en pleine forme, vous êtes prêt à faire tout un tas de choses, et vous dites ou faites la mauvaise chose, alors nous avons besoin de l'aide de Dieu. Ensuite, lorsque nous voulons, faisons et accomplissons les paroles et les actions, nous remercions Dieu de nous avoir donné la capacité de le faire par son esprit. Passons à Michée 6. Michée, chapitre 6. C'est le but de notre vie. Il est directement lié à l'unité. Michée, chapitre 6, verset 7. L'Éternel se réjouira-t-il de milliers de béliers, sacrifices, ou de dizaines de milliers de fleuves d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour mes transgressions, le fruit de mon corps pour le péché de mon âme? Vais-je tuer des milliers de taureaux? Vais-je faire toutes ces choses physiques? C'est ainsi que j'obtiens le bon côté de Dieu, si vous voulez. Verset 8. Il m'a montré, ô homme, ce qui est bon. Eh bien, il va répondre à la question. Et que vous demande le Seigneur, sinon de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu? Il est dit, humblement avec ton Dieu. En fin de compte, si nous accomplissons ces quatre étapes, la cinquième devient la marche avec Dieu. Puis nous répétons, répétons et répétons. Et si nous faisons tout cela, le sous-produit automatique est l'unité. Nous devenons tous unis parce que nous essayons tous de ressembler davantage à Dieu. Je veux dire ressembler davantage au Christ et le sous-produit de cela est que nous sommes, encore une fois, si nous sommes plus semblables à lui et unis à lui, plus nous sommes unis les uns aux autres. C'est aussi simple que cela. Dieu veut nous aider. C'est pourquoi il veut marcher avec nous. Il ne dit pas que vous devez marcher comme votre Dieu, ou faire les choses comme votre Dieu, bien sûr, nous faisons cela, mais Dieu dit, non, je veux marcher avec vous. Parce que, bien sûr, c'est ce qu'il fait. Vous pensez que si vous marchez avec quelqu'un, et nous sommes humains, Dieu est Dieu. Il est donc parfois plus facile de nous imaginer dans une équation similaire. Nous sommes ce vétéran de guerre de 98 ans, en panne de dos et unijambiste. L'image, c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans sa vie et qui a un déambulateur ou quoi que ce soit d'autre. Elle a du mal à faire des pas pour avancer, et puis vous avez Dieu qui est Dieu et plein d'allants qui marchent à côté de vous, et il ne marche pas avec nous parce qu'il veut rire, eh bien, vous ne vous déplacez vraiment plus très bien. Il est là pour nous aider. Nous pouvons donc marcher avec lui. Il nous soutient. Il nous élève. Nous nous souvenons, nous voulons, nous faisons, nous parlons et nous agissons, puis nous le remercions. C'est pour cela qu'il marche avec nous, pas pour d'autres raisons. Pourquoi le ferait-il? Pourquoi y consacrerait-il du temps? Il est Dieu. Mais il veut faire des choses qui peuvent nous aider. Matthieu, chapitre 5. Et nous enlèverons l'image des vétérans de guerre de 98 ans. S'il y a des vétérans de la guerre de 98 ans qui n'ont qu'une jambe et le dos cassé, je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser, mais nous voulons en faire une image. Mais ce qui se passe, c'est que si nous continuons à le faire, nous continuons à avoir le même comportement, nous commençons à ressembler davantage à notre Créateur, et c'est ce qui commence à se produire. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Commençons. Verset 14 de Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Alors que le monde s'assombrit, nous devenons plus lumineux. Même si nous ne devenons pas plus lumineux, nous avons l'air plus lumineux. Si vous voyez une lampe de poche et que vous l'allumez dans une pièce sombre ou que vous appuyez sur l'interrupteur dans une pièce sombre, il y a une seconde où vous êtes aveugle. J'ai des yeux clairs, des yeux verts, et mon ennemi juré est le soleil. Si je sors, que je suis dans l'ombre et que j'entre en contact avec la lumière du soleil, c'est comme de la kryptonite, je commence à me flétrir, la vieille sorcière à qui on a versé de l'eau, je dis, non. Mais mes yeux finissent par s'habituer et je peux le comparer au même soleil dont la luminosité n'a pas changé. Si votre luminosité ne change pas mais que tout autour de vous s'est assombri, vous vous distinguez davantage. Verset 15. On n'allume pas une chandelle pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Votre volonté, vos actes, vos paroles, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous devenons plus semblables au Christ, lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu nous changer, tout ce que nous faisons, c'est d'être un exemple. Nous sommes la manifestation de l'Esprit, si vous voulez, pour toutes les personnes qui nous entourent. Ils ne comprennent pas le christianisme, ils ne comprennent pas les vérités de Dieu, mais ils comprennent que vous interagissez avec eux. Moi, lorsque nous sommes polis, lorsque nous sommes gentils, lorsque nous allons vers eux et que nous leur disons merci, que nous leur ouvrons la porte, que nous leur offrons de l'aide. Il m'est arrivé, chez Giant Eagle, de proposer à quelqu'un de prendre son chariot parce qu'il faut entrer dans l'entreprise et qu'on a besoin d'un chariot. C'est parfaitement logique. Ce n'est pas égal. C'est un peu égoïste. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'autre file d'attente, c'est juste devant moi, je suis paresseux. Et la tête qu'ils font, c'est « Oh, merci ». Cela ne devrait pas susciter une telle réaction. Mais nous vivons dans un monde de plus en plus sombre, et nous préférons laisser le chariot entre deux voitures, de sorte qu'un chariot est endommagé, plutôt que de le porter à l'avant, même si quelqu'un leur a proposé de le faire pour eux. C'est minuscule. Mais si nous sommes polis dans n'importe quelle situation, nous nous démarquons. Notre lumière apparaît, nous sommes différents, et nous montrons ce que Dieu essaie de faire à travers son esprit, et finalement ce qu'il deviendra lorsque ce jour sera accompli. Mais il faut cet esprit pour nous changer. L'Esprit de Dieu est nécessaire pour passer de ce que nous étions à ce que nous pouvons devenir. Et si vous n'êtes pas encore baptisé, ne vous découragez pas. Vous avancez vers le baptême. Franchissez les étapes. Ne retardez pas le baptême. Si vous avez suivi la voie de Dieu pendant un certain temps, vous devriez y penser parce qu'il y a une limite à ce que Dieu peut faire lorsque l'Esprit travaille avec vous parce qu'il s'attend à ce que vous passiez à l'étape suivante. Dieu peut le faire pendant des années, si vous êtes plus jeune. Mais si vous atteignez un certain âge ou si vous fréquentez l'Église depuis un certain temps, l'étape suivante dans la voie de Dieu est le baptême, car l'Esprit doit être en vous. Il peut travailler avec vous pendant un certain temps, mais nous avons besoin qu'il soit en nous pour nous changer. C'est pourquoi, avant le baptême, la plupart des changements que vous et moi avons apportés sont d'ordre physique. Nous avons cessé de manger du porc. Nous avons respecté le sabbat. Nous ne faisions pas les choses physiques. Mais j'ai entendu dire il y a des années, et c'est une déclaration puissante, que l'une des choses que vous ne pouvez jamais faire lorsque vous n'êtes pas baptisé est que vous ne pouvez pas chasser les mauvaises pensées de votre esprit parce que l'Esprit de Dieu travaille avec vous, à l'extérieur et autour de vous, et non pas directement avec votre esprit, de sorte que vous ne pouvez pas chasser les mauvaises pensées. Une fois que vous êtes baptisé, cela change. C'est donc dans cette direction qu'il faut que l'esprit change. Allez au chapitre 3 de l'Épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 17. Le verset 17 de 2 Corinthiens 3 dit: Je vous laisse y arriver. J'ai encore des pages à lire. Le verset 17 du chapitre 3 de l'Épître aux Corinthiens, Or le Seigneur est cet esprit. Dans le contexte, on parle de Dieu et du Père. C'est l'une de ces réfutations très simples mais subtiles de la Trinité. Vous pouvez réfuter la Trinité avec ce verset. Si Bob, Joe et Gilles se tiennent tous ensemble, personne ne peut s'approcher et dire « Bob et Joe » ou « Bob et Gilles » ou « Bob et Gilles ». Ce sont trois entités distinctes. Même s'il s'agit de jumeaux conjoints, ils pourraient être unis par la hanche. Ce sont des jumeaux conjoints, mais il y a Bob, Joe et Gilles. On ne peut pas devenir l'autre personne. Le verset 17 dit, « Le Seigneur est cet esprit, parce qu'il en est constitué. » Le Saint-Esprit, ce n'est pas une entité séparée. Nous le savons. Il y a une autre chose que nous, en tant que chrétiens, dans le mode de vie de Dieu, c'est une seconde nature pour nous. Cela ne nous traverse jamais l'esprit. On ne se dit jamais, peut-être. Vous savez quoi? Peut-être que le Saint-Esprit a une personnalité. Nous ne le faisons jamais, mais lorsque les gens voient cela pour la première fois ou l'entendent pour la première fois à propos de la Trinité, c'est un choc pour eux, et des choses que nous tenons probablement pour acquises. Continuez et le Seigneur est esprit, c'est cet esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Mais nous tous, le visage ouvert, regardant comme dans un verre, ou regardant dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, recevant et ayant avec notre esprit, puis plus tard, né dans la famille de Dieu, comme par l'Esprit du Seigneur. Le changement se produit par l'Esprit du Seigneur. C'est ce que dit le verset. L'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir de devenir des personnes différentes, qui ne sont pas celles que nous étions auparavant. Romains, chapitre 8. Tant de gens perdent ce qui est un aspect fondamental de ce que signifie vivre le mode de vie de Dieu, c'est-à-dire changer. C'est un club social dans la plupart des églises du monde. C'est ce qu'elles font. Un club social. Les gens veulent faire ce qu'il faut. Il y a des gens qui essaient de le faire, oui. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais la plupart d'entre eux ne comprennent pas pourquoi nous suivons ce mode de vie pour changer, grandir, se repentir, se développer. Le verset 7 du chapitre 8 de l'Épître aux Romains dit « L'esprit charnel est inimitié ou ennemi de Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu et ne peut l'être. » L'esprit humain ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Même avec l'esprit de l'homme, nous pouvons construire et créer les choses les plus étonnantes. J'ai vu cette semaine, je crois que c'était cette semaine, peut-être plus tôt, un vaisseau spatial de 400 pieds de haut, donc plus long qu'un terrain de baseball, avec 33 fusées à l'intérieur, tirer ce qui était essentiellement un terrain de baseball dans l'espace extra-atmosphérique. Le propulseur inférieur, le boosté, est revenu sur Terre, atterri, tout seul, et le vaisseau a traversé l'atmosphère, a volé pendant un certain temps, est revenu dans l'atmosphère, puis atterri tout seul. Ils ont atterri dans l'océan et n'ont donc pas été récupérés, mais ils les ont testés. L'humanité est capable de créer des choses étonnantes. Il n'y a pas si longtemps, vous auriez été surpris par un objet allant dans l'espace. Cela fait des années que nous n'avons pas eu la capacité et les États-Unis de le faire. Aujourd'hui, c'est devenu tellement normal qu'on n'annonce même plus les lancements de fusées tous les 2 jours. Parce que l'homme peut créer des choses étonnantes, des choses physiques étonnantes. Rappelez-vous le verset qui dit « Ils ne sont pas soumis à la loi de Dieu et ne peuvent l'être. » Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Si vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il faut faire, comprendre comment obéir à Dieu, ou comprendre les choses spirituelles, comment pouvez-vous leur plaire? Vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu habite à nouveau en vous, et vous êtes avec vous si vous n'avez pas encore été baptisé. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le facteur clé de différenciation. Vous n'êtes pas chrétien sans l'Esprit du Christ. Si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. 11e verset. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, et si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifie aussi vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est le changement auquel nous aspirons tous. C'est notre objectif. C'est notre objectif. C'est ce que nous voulons atteindre à la fin. Le passage du physique à l'esprit. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela n'arrive pas. Cela se produit en un clin d'œil, c'est instantané, le changement, mais pour se qualifier pour ce changement, il faut du temps. Il faut des efforts, il faut que ce même esprit au baptême aille dans notre esprit, commence à changer notre esprit, prenne notre cœur de pierre, le transforme en chair. Il a commencé à le transformer pour qu'il puisse être modelé, façonné et changé afin de nous permettre d'être prêts pour ce moment. Ce moment que ce jour nous montre pour que nous puissions aller vers l'esprit, devenir esprit. Revenons au chapitre 51 du psaume. Nous devons changer maintenant. Si nous voulons être capables de devenir esprit, nous devons changer maintenant. Verset 7 du psaume 51. Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Parce qu'il peut y avoir un mauvais esprit en moi ou en vous. Nous avons besoin d'un cœur pur, car nous n'avons pas commencé ainsi. Nous avons besoin d'un esprit droit en nous. Dans ce cas, il le demande pour le renouveler, le renforcer encore et encore. Continuez à changer. Comme David le décrit ici, il a besoin d'être renouvelé, tout comme vous et moi. Notre cœur, tout comme tout ce qui est pur, si vous pensez à ces installations, ces salles blanches, où l'on fabrique des puces en silicone pour les ordinateurs. Des salles très propres. Il veille à filtrer l'air. Rien de ce qui pénètre dans l'installation n'y apporte d'impureté qui pourrait l'endommager et lui coûter des millions et des millions de dollars. Il suffit d'un grain de poussière. De petits morceaux pour changer, pour corrompre, pour faire de ce cœur, dans notre cas, de mauvaises décisions, une mauvaise conduite. Pour que notre cœur pur, que Dieu nous a donné au baptême, ce cœur charnu, commence à ramener des éléments, je suppose que l'on pourrait dire, des pierres. Si vous regardez une huître, vous obtenez une perle. Cette perle est née parce que la palourde ou l'huître a reçu un grain de sable. Ce petit morceau de pierre s'est retrouvé dans l'animal, qui a essayé de l'enrober pour s'en débarrasser, et il est finalement devenu une huître. Elle vaut beaucoup d'argent aujourd'hui, mais au départ, elle n'était qu'un grain de sable. Au départ, c'était quelque chose d'impur. Un tel caillou peut revenir dans notre cœur pour que nous soyons renouvelés chaque jour. Verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Parce que sans cet Esprit, notre cœur ne peut pas être renouvelé. Nous ne pouvons pas avoir un cœur pur. Ézéchiel 36, je l'ai déjà référencé, mais nous pouvons le lire. Ézéchiel chapitre 36 verset 24. Reprenez. Verset 24 d'Ézéchiel 36. Car je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Alors je vous aspergerai, je ferai jaillir sur vous de l'eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous purifierai. Cela me semble familier, purifiez-moi, renouvelez-moi, créez un cœur pur. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai le cœur de pierre de votre chair, et je vous donnerai un cœur de chair. J'ai fait tout un sermon sur les cœurs de pierre et les cœurs de chair. Mais Dieu dit ce qu'il veut. C'est une chose étonnante. Donc, tout ce que nous faisons, nous combattons notre chair, nous ne voulons pas être comme notre chair est un problème, mais dans ce cas précis, Dieu a dit, la chair est un pas en avant par rapport à la situation actuelle de votre cœur. Votre cœur est au plus bas. Si nous l'amenons à la chair, nous nous en sortons plutôt bien. Il faut se convertir pour arriver à la chair, le but ultime étant de devenir esprit, mais pour le reste, quand on entend parler de la chair, c'est vraiment négatif. Nous devons combattre la chair, la guerre de la chair, etc. Mais lorsqu'il s'agit du cœur, Dieu dit, un cœur de chair vaut mieux que le cœur de pierre que tu as. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous marchiez dans mes lois, que vous observiez mes jugements et que vous les mettiez en pratique. Cela exige que nous changions. Il faut que l'Esprit de Dieu change nos cœurs. C'est Dieu qui le fait par son Esprit. Son Esprit est l'outil. C'est pourquoi les gens sont confus lorsqu'ils lisent la Bible et des choses comme la Trinité, parce qu'ils voient l'Esprit faire des choses. Ce n'est pas seulement, si je vais travailler sur une voiture, la clé va desserrer le boulon, mais la clé ne l'a pas fait toute seule. Il y avait une personne derrière qui tenait la clé, qui l'a déplacée. Le Saint-Esprit est la clé. C'est l'outil. Mais Dieu exige que nous soyons capables de l'avoir en nous pour commencer à changer. Cela nous permet de ressembler de plus en plus au Christ, à Dieu, d'être capable d'être à nouveau unifié dans toutes les choses que nous avons vues se produire dans le Nouveau Testament ou au premier siècle, et que nous devons ensuite imiter et faire aujourd'hui. Mais il s'agit davantage de cet esprit, au chapitre 2 des 1 Corinthiens. Dieu peut nous guider à travers cet esprit. Se souvenir de vouloir, de faire, de dire, tout cela s'applique, mais nous pouvons être guidés. Nous pouvons recevoir la sagesse par son esprit. Il ne s'agit pas d'un jour saint jetable qu'il est facile d'inscrire. Je sais que personne ne dit « Ah, je peux jeter la Pentecôte. » Ce n'est pas grave. Non, nous ne pensons pas comme cela, mais je pense que nous mettons très facilement cette question en veilleuse dans notre esprit. C'est le moment où nous le faisons. Nous faisons une offrande, mais Dieu donne un poids incroyable à ce jour, à la fois à ce qu'il a fait historiquement et à la manière dont cela s'accomplira dans un avenir proche. Chapitre 2 et verset 10. Mais Dieu nous a révélé par son esprit, car l'esprit sont toutes choses. Oui, les choses profondes de Dieu, car rappelez-vous, sans cet esprit, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu. Verset 11. Car quel homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Sans l'esprit de l'homme, il n'y a pas de fusée. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de chaise, tout ce que nous avons. Nous sommes des animaux. Rien de différent. Nous pourrions tout aussi bien être de Bogatouang dans un enclos. Quelqu'un prend soin de nous. Nous ne faisons que nous promener. Tout se passe devant nous. Nous n'avons pas la capacité de faire passer l'information d'une génération à l'autre. C'est l'homme spirituel qui le permet. Sauver l'homme spirituel qui est en lui. De même, les choses de Dieu ne sont connues de personne, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu sans son Esprit. Tout comme nous ne pourrions pas comprendre l'électricité sans l'Esprit humain. La capacité d'enregistrer, mais nous ne pouvons pas enregistrer la connaissance spirituelle. On peut l'entendre. Vous pouvez entendre la connaissance spirituelle. Je pourrais prendre le livre. Je pourrais être non converti. Je pourrais être un athée ou un adorateur du diable, quel qu'il soit, et prendre la parole de Dieu, lire des mots et dire que ces mots ont un sens, ou qu'une partie de ces mots ont un sens, mais je n'ai pas la capacité de retenir cette connaissance spirituelle. Vous pouvez apprendre à un cheval à compter, mais il ne fera pas d'algèbre. Il n'a pas la capacité d'aller au-delà du simple. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour débloquer cela, pour pouvoir aller plus loin. Galates 5. C'est tout simple. Quelques versets rapides. Galates, chapitre 5, verset 25. C'est très concis. Le verset 25 de Galates 5 se lit comme suit. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi dans l'esprit. Si nous voulons donner l'exemple de ce mode de vie, nous devons marcher selon ce mode de vie. Nous devons agir. Nous devons être cette lumière dans tout ce que nous faisons. Dans tous nos rapports avec les autres. Elle nous permet de vivre, mais là encore, elle exige une action. Revenons au chapitre 3 des Proverbes. Encore une fois, quelques versets rapides. Proverbes, chapitre 3 et verset 5. 3, 5. Le cinquième verset dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Nous faisons la différence entre les deux. Dans toutes tes voies, reconnais-le, toutes. Et si vous le faites, si vous avez confiance de tout votre cœur, nous ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension, dans toutes nos voies nous le reconnaissons, alors il dirigera tes sentiers. Encore une fois, souvenez-vous que nous ferons des paroles et des actes, en remerciant Dieu pour que vous puissiez marcher avec lui. Mais c'est lui qui guidera notre chemin si nous ne nous appuyons pas sur notre intelligence. Le verset 7 continue ainsi, ne soyez pas sages à vos propres yeux. N'ayez pas une haute opinion de vous-même. Et c'est plus difficile. Si vous avez une compétence, si quelqu'un a une compétence, c'est facile pour nous, surtout dans ce domaine spécifique, d'être sage et tout cela. Nous connaissons notre chemin. En ce qui me concerne, je suis à l'aise avec les ordinateurs. Je m'y retrouve assez bien. Je peux regarder cela et me dire que je suis doué en informatique. Si vous pouviez tous me suivre, je vous montrerai une chose ou deux, où je pourrais me rappeler, appliquer cela dans votre vie ou dans n'importe quel domaine dans lequel vous avez des compétences, que Dieu nous donne nos compétences et nos talents et diverses autres choses. Donc, dès que je commence à penser, oh là là, je suis vraiment bon dans ce domaine, je dois me rappeler, eh bien, je suis vraiment bon dans ce domaine. Je dois me rappeler que je ne suis bon qu'à ce que Dieu m'a permis d'être bon, ou à toutes les expériences auxquelles vous avez ouvert ma vie, pour pouvoir me former dans ces domaines. Et rapidement, en tant qu'être humain, vous commencez à vous dégonfler. Vous vous rendez compte que si je suis ce que je suis, c'est grâce au Créateur qui m'a permis de vivre et de faire les choses et d'assembler l'ADN pour pouvoir comprendre les choses que je fais, et qu'il y a pensé avant la fondation du monde. À ce moment-là, vous vous sentez beaucoup plus petit parce qu'il a planifié tout cela depuis longtemps et qu'il savait de qui il avait besoin au moment où il en avait besoin. Mais ne soyez pas sages à vos propres yeux. Craignez le Seigneur, ce qui vous éloignera du mal, car nous craignons les erreurs. Vous ne voulez pas que les erreurs vous fassent combattre Dieu, ce qui signifie que vous devez vous appuyer sur Dieu. Et lorsque nous nous appuyons sur Dieu, nous lui donnons l'intelligence. Il dirige nos chemins. Et quand Dieu dirige nos chemins, qu'est-ce que nous n'allons pas faire? Nous n'allons pas faire des choses qui sont mauvaises, donc nous allons nous éloigner du mal. C'est toujours la formule de Dieu qui veut que l'on suive une série d'étapes et que le résultat soit presque par défaut si l'on suit les étapes précédentes. Revenons au Nouveau Testament, Jean 16. Jean, chapitre 16, verset 12. Verset 12 de Jean 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Cela signifie les supporter maintenant. C'est comme lorsque nous sommes baptisés pour la première fois, Dieu ne nous montre pas toutes les choses que nous devons changer dans notre vie, ou comme vous l'entendrez lors d'une séance de conseil pour le baptême. S'il te montrait tout d'un coup, tu grimperais jusqu'à la plus haute maison, le plus haut bâtiment, le plus haut arbre ou le plus haut pont et tu sauterais parce que tu sais, tu ne peux pas changer toutes ces choses. C'est impossible. Maintenant, Dieu, Christ dit qu'il y a beaucoup de choses ici que vous allez apprendre, mais votre esprit n'est pas encore prêt pour cela parce qu'ils n'ont pas encore eu son esprit. Même ces choses profondes, ils ne pouvaient pas les comprendre. Ils pouvaient les entendre. L'esprit travaillait avec eux, mais pas encore en eux. Quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Bien sûr, c'est le Père qui parle à travers l'Esprit ou Christ, et il fera connaître les choses à venir. L'Esprit de Dieu agit comme une base de données, si l'on peut dire, des questions spirituelles dans notre esprit. Nous avons soudain accès à des informations auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. Nous avons la capacité de stocker, de trier et de catégoriser des informations spirituelles, ce que nous ne pouvions pas faire auparavant. On ne peut pas construire une maison sans plan. Nous ne pouvons pas nous développer et changer en tant que chrétiens sans que l'Esprit de Dieu nous donne accès au plan, si vous voulez, de la façon de vivre ce mode de vie. L'Esprit de Dieu nous donne la compréhension. C'est de cela qu'il s'agit en ce jour, de la puissance de notre Créateur lorsqu'il travaille avec l'humanité, l'ancien Israël, en l'an 31 de notre ère, et vous et moi aujourd'hui. Allez au chapitre 1 de Jacques. Nous commençons à conclure. Jacques, chapitre 1, verset 5. Juste un verset ici. Jacques 1, 5. Il devrait être facile de répondre à cette question. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, nous pouvons tous lever la main et dire « Oui, c'est vrai ». Nous en manquons tous, car nous ne sommes pas Dieu. Nous pouvons donc atteindre la sagesse si nous commençons par dire que nous manquons de sagesse. Même si nous la possédons, il y a plus que nous pouvons prendre ou demander, recevoir. Qu'il demande à Dieu, qui donne à tous généreusement. Il est heureux de nous donner plus de sagesse, et il ne craint rien, et cela lui sera donné. Encore une fois, c'est grâce à cette connexion. L'Esprit de Dieu nous permet de le prier, de nous présenter devant le tribunal de Dieu et de nous présenter devant son trône. C'est ce que nous avons reçu. C'est ce qui est illustré en ce jour. Je n'oublierai jamais la Pentecôte, parce que j'ai été baptisé le jour de la Pentecôte. Il s'est avéré que le calendrier de l'année s'y prêtait. Je l'ai donc toujours à l'esprit. En fait, je ne me souviens pas du jour de mon baptême, mais je me souviens du jour de la Pentecôte, donc je sais quel jour c'était. Et puis la Pentecôte est un sujet délicat parce qu'il faut toujours aller la chercher. Il faudrait que je l'apprenne par cœur à un moment ou à un autre. Mais comme il s'agit d'un conte, cela signifie que ce n'est pas la même date hébraïque ou la même date du calendrier grégorien. Je n'ai donc aucune idée de la date de mon baptême. Je connais juste l'année, et c'était à la Pentecôte. Cela reste donc dans mon esprit. Cela n'a rien à voir avec le sermon, mais cela me permet de garder la Pentecôte à l'esprit. Mais Dieu nous dit que si nous voulons de la sagesse, nous n'avons qu'à demander, et il nous la donnera. Il ne la retient pas. Il n'est pas avare de sagesse. Et nous manquons tous de ce dont nous aurions besoin. Et finalement, cette image, l'ancienne église du premier siècle, ce que nous pouvons en tirer, comment l'Esprit travaille à travers nous, ce qu'il change en nous, ce que nous devenons à partir d'elle. Le but est de nous amener à ressembler davantage à Jésus-Christ. Romains chapitre 12. Romains, chapitre 12. Nous commencerons au verset 1, au début du livre. 12. 1. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. C'est la base de ce que nous devons faire. Nous devons être ceux qui se sacrifient. Verset 2, « Et ne vous conformez pas », c'est un mot intéressant, mais nous le lirons et nous y reviendrons. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez découvrir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous voulons faire les choses qui sont la volonté de Dieu, à la fois l'approuver, savoir qu'elle est bonne, acceptable et parfaite. Mais le sens de ce verset est conformé par opposition à transformer. Le terme « conformer » signifie donc « prendre la forme de ». Si je prends de la pâte à modeler autour d'un verre, je prends par exemple de la pâte à modeler Play-Doh et je la mets autour d'un verre, elle prendra cette forme. Et si vous la chauffez, vous pouvez être dur et elle gardera cette forme. Elle a effectivement pris cette forme. Dieu dit donc, « Ne laisse pas ce que j'ai fait te traverser parce que tu es différent maintenant. Tu as enterré ce vieil homme. Ne soyez pas le Play-Doh qui prend à nouveau la forme du monde. Ne vous laissez pas faire. Non, non, vous passez par un processus différent, et il continue d'être vous transformé par le renouvellement de nos esprits. La transformation, c'est ce que cela signifie. Une métamorphose. Nous changeons donc au-delà de ce que nous sommes actuellement. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, nous ne pouvons pas revenir en arrière et être conformes, mais nous devons continuer à être transformés. C'est ainsi que nous comprenons mieux la volonté parfaite de Dieu et ce que nous devons faire dans notre vie. Galates, chapitre 3. Encore quelques versets ici, des passages. Galates chapitre 3, verset 26. Galates chapitre 3 et verset 26. Le verset 26 dit, « Car vous êtes tous enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. En effet, tous ceux qui ont été baptisés dans Christ ont revêtu Christ. Même si nous n'y sommes pas encore tout à fait, mes frères, nous devons les revêtir. » Vous connaissez le dicton qui dit que l'on fait semblant. Le christianisme, d'une certaine manière, est une sorte de jeu qui consiste à faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. Même si nous ne savons pas comment faire toutes les choses, nous essayons, nous observons et nous devenons avec le temps. N'oubliez pas que si nous le faisons, nous le ferons, nous le ferons. Nous franchissons toutes ces étapes. Nous ressemblons de plus en plus au Christ, et nous devenons moins une image du Christ. Nous devenons plus semblables à lui. Parce que si vous revêtez Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni femme, car tous nous ne faisons qu'un en Jésus-Christ, car c'est le but. Être un. Lui ressembler signifie que nous sommes comme le Père, être comme le Père. Nous sommes comme Christ. Et si nous faisons tout cela, alors chacun de nous est semblable à l'autre. Et le verset continue et se termine au verset 29, qui seront héritiers selon la promesse. Enfin, le chapitre 1 de Philippiens. Philippiens, chapitre 1. Commencez au verset 3. Le troisième verset de Philippiens 1. Je rends grâce à mon Dieu à chaque fois que je me souviens de vous. Dans chacune de mes prières pour vous tous, je fais des demandes avec joie, à cause de votre communion dans l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que le premier jour dans leur esprit? Pouvez-vous imaginer ce que c'est? Les apôtres, ils étaient là quand le Saint-Esprit a été donné, quand ils ont vu les langues de feu, quand ils... Qu'est-ce qui leur est venu à l'esprit le premier jour jusqu'à aujourd'hui? La Pentecôte, bien sûr. Ayant l'assurance de cette chose même. Nous avons donc vu l'Église du premier siècle le jour de la Pentecôte. Ce que nous devons faire aujourd'hui, toutes les étapes que nous devons franchir, les procédures pour nous développer, grandir et devenir comme Christ. Nous savons que nous devons vouloir, nous recevons cette volonté de Dieu, pour faire, pour changer nos paroles, nos actes, pour le remercier. Verset 6, nous avons l'assurance que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous et en moi, l'accomplira jusqu'au jour de Christ. Frères et sœurs, ce jour s'accomplira. Nous n'avons pas eu l'occasion de vivre ce qu'ils ont vécu en l'an 31 de notre ère. C'était plus calme. Nous n'avions pas de feu. Vous ne comprenez pas mon français. Les Français non plus. Mais ce que nous avions, c'était le même esprit. Ce même esprit qui a démontré sa puissance il y a 2000 ans est en nous aujourd'hui, il nous change, il nous aide à grandir. Si nous prenons tout ce que nous avons appris cet après-midi et ce matin, et que nous l'appliquons ce soir après le coucher du soleil, nous laisserons l'Esprit de Dieu continuer à travailler en nous. Ce n'est pas un événement d'un jour, et il continue à grandir pour nous changer chaque jour. Continuez à ressembler davantage à Jésus-Christ, chaque jour que Dieu nous donne. Si nous le faisons, nous serons prêts. Nous serons prêts à être là quand ce jour s'accomplira et quand l'esprit qui nous aide à changer maintenant, nous serons là et ferons partie du moment où cet esprit nous changera pour faire partie de la famille de Dieu.